Quay.
Bonjour.
Alexis Wawanalwat.
Robert Blondin.
Aujourd'hui, on a une belle émission sous le thème « One Dat ».
Oui, parce qu'il y a deux invités de marque. Hein? Oui. Jennifer Obomsawin, qui est là, là qui nous attend, puis Isabelle Picard en deuxième partie.
C'est ça. On va commencer avec Jennifer Obomsawin, qui est conseillère du grand chef de la nation, Huron Wendat. Jennifer est non seulement Wendat, mais elle est aussi Abenakis. Quoi est Jennifer?
Quoi?
Ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui, ça va bien. Dernièrement, on a pu écouter l'entrevue que tu as faite avec Kim Obomsawin. On a vu à quel point tu étais une femme engagée, une femme aussi très ambitieuse. En commençant comme ça, des fois, on t'a fait qualifier d'ambitieux. Est-ce que tu trouves que ça a évolué depuis certains temps? On accusait souvent les gens d'ambitieux de trop en vouloir, de trop vouloir en faire, de ramener ça à eux. Comment tu qualifierais ton ambition?
Moi, en fait, je pense que c'est quelque chose qui est positif. Là. Il faut arrêter de voir, puis de carrément, comme tu as dit, Alexis, là, arrêter de voir ça comme étant quelque chose de péjoratif. Au contraire, là, je pense qu'une personne ambitieuse, surtout une femme des Premières Nations ambitieuse, je pense que c'est ce dont on a besoin.
Mm-hmm.
On doit faire avancer la cause des nations autochtones. On doit continuer à faire valoir là, nos droits, les protéger. Et puis pour ça, ben, ça prend des gens ambitieux. Fait que, moi, je le vois comme étant un très beau compliment. Merci de me qualifier ainsi. Puis j'espère qu'il y en aura d'autres aussi, là, d'autres jeunes, d'autres personnes impliquées comme nous là, qui sont impliquées dans nos communautés, qui vont poursuivre là, finalement dans cette veine-là, puis continuer à être ambitieux là, le plus possible.
Ambitieuse au point de devenir première ministre, que j'ai lu?
Oui, ça me fait toujours un peu rire, parce que c'est sûr que j'aime utiliser le parallèle, puis les images que les sociétés québécoises, la société québécoise a, c'est pour eux, le chef de l'État, c'est d'être une première ministre ou d'être un premier ministre. Mais c'est sûr que pour moi, j'ai un désir de m'investir auprès de ma nation, des nations autochtones en premier lieu. Mais pourquoi pas éventuellement là, viser là, les structures coloniales, parce qu'il faut bien sûr faire partie aussi de ces structures-là pour les décoloniser de l'intérieur.
Mmh. Tu parles de structures coloniales. Avant d'être conseillère au grand chef, tu étais attachée politique auprès du ministre Yann Lafrenière et de la ministre d'Amour. Quand on parle de structure coloniale, l'État québécois, c'est quand même un exemple assez éloquent. Je me demandais, est-ce que tu te sentais tiraillé, tu sais, quand, par exemple, dans le débat sur le racisme systémique? Moi, j'ai souvent eu ce tiraillement-là quand j'ai eu à participer à des institutions qu'on pourrait dire coloniales. Est-ce que tu avais des tiraillements intérieurs à ce moment-là, toi?
Mais oui, c'est très difficile, tu sais, puis c'est entre autres une des raisons pourquoi je suis partie là, du gouvernement provincial. L'idée à la base, quand je me suis impliquée, on est venu me recruter, on m'a demandé si ça me tentait de relever ce défi-là, puis bien sûr que moi, je l'ai vu comme étant un apprentissage. Je me dis, quelle belle école là, d'aller apprendre en étant là comment le système québécois fonctionne, comment l'État québécois fonctionne, comment le gouvernement, comment les partis politiques. Moi, je l'ai vraiment vu comme étant une façon d'être là, puis aussi d'éduquer à l'interne, de sensibiliser. Et c'est sûr que, tu sais, j'avais pas un poste de pouvoir, j'avais plus un poste d'influence, mais j'ai tenté d'avoir le plus d'influence possible et d'éducation en interne pour tenter de changer certaines choses. Mais à un moment donné, on est constamment pris entre l'arbre et l'écorce en étant en Première Nation, mais en étant aussi employé de l'État québécois, en travaillant pour les intérêts du gouvernement québécois, ben t'es constamment pris entre l'arbre et l'écorce. Il faut, tu sais, d'une part, tu défends ton employeur, tu sais, qui est le gouvernement du Québec, mais d'une autre part, avec qui tu transiges, ce sont tes cousins, tes cousines, tes amis, des membres des Premières Nations qui défendent la même cause que toi, puis qui ont les mêmes valeurs que toi. C'est difficile quand même de faire ces métiers-là. Puis malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'Autochtones qui font ça. Mais je pense qu'une des grandes raisons, c'est pour ça, c'est que c'est tellement difficile d'être pris dans l'arbre et l'écorce constamment, puis de devoir trancher ou de devoir prendre position des fois un peu à l'inverse de ses valeurs, en accord de ses valeurs. Mais je pense que tu en bout de ligne, là, c'est assez tiraillant que ça peut être épuisant. Puis dans mon cas, moi, j'ai préféré m'investir auprès du grand chef et de ma nation, puis de contribuer à l'effort collectif.
Ça a dû être un grand soulagement pour toi.
Oui, vraiment. J'ai apprécié mon passage. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je me suis des amis. On avait un cabinet aussi qui était plus de 50% autochtones, ce qui est nouveau là, dans tout le gouvernement. Là. C'est la première fois que ça arrivait. Mais tant mieux. T'sais, puis t'sais, nous, entre nous, je pense qu'on réussit à avoir nos espaces aussi là, de où on pouvait se défouler puis finalement dire ce qu'on voulait dire, là, qu'on ne pouvait pas nécessairement dire sur la place publique. Fait que, une chance qu'on avait ça, c'est ce qui m'a permis de rester là quand même un certain temps. Mais c'est sûr que là, maintenant, je regarde ça, puis je pense que j'avais besoin de sortir de cette bulle-là, j'avais besoin de pouvoir m'investir, parler librement, puis tu sais, de croire en la cause que je défends. T'sais.
Dans le merveilleux monde là, des fonctionnaires, est-ce que vous étiez un peu stigmatisé là, comme autochtone?
Ben c'est sûr que tu deviens rapidement l'Indien de service. Hein. Quand on est au cabinet, puis on est 3-4 là, à constamment faire partie des rencontres, puis à devoir tout le temps être la petite mouche noire là, qui rappelle que les Premières Nations existent au Québec, là, c'est fatigant, parce qu'à la longue, c'est ça, notre travail, nous, on était constamment associés à la petite mouche noire du gouvernement. Bon, encore, qu'est-ce qui fonctionne pas? Il faut avoir cette twist-là. Bon, qu'est-ce qu'on a oublié? Est-ce que, t'sais... Puis c'est ça qui est dommage, c'est que les Premières Nations, je crois, dans les dernières années, sont vues davantage comme étant des bloqueurs de projets, des empêcheurs d'avancer, au-delà de voir des gens qui protègent leurs intérêts, protègent leurs droits et leurs territoires. C'est comme ça qu'on devrait voir les Premières Nations davantage que des gens qui sont contre les projets de développement.
Toi, qui as eu cette expérience politique-là, on a entendu dans l'entrevue à Radio-Canada que ta passion venait beaucoup de ton père et de ta mère. Ton père que j'ai eu la chance de connaître, mes condoléances, je sais que c'est quand même assez récent. C'est toujours quand même quelque chose que tu dois porter, le décès de ton père, de Luc.
Oui, c'est difficile de vivre cette expérience-là en étant jeune encore, tu sais. Mm-hmm. J'avais 25 ans quand mon père est décédé, j'en ai maintenant 26, donc c'est très, très récent, là. Pour moi, ça vient tout juste d'arriver, puis ça ébranle quand même aussi toute la question identitaire. Là. Mon père, en étant Abénaki, était Abénaki, il m'a transmis tout ce côté-là, cette culture-là, qui se joint à celle de ma mère, là, qui est Wendat. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que c'est tout ce pan-là aussi là, que je venais de perdre un peu le pont avec cette communauté-là, la communauté d'Odanak. Je tente de maintenir, là, bien sûr, là, tout ce lien-là, de m'impliquer encore davantage au sein de la nation, tout comme quand mon père était vivant. Mais c'est sûr que ça l'a ébranlé tout ça, puis que je me suis mis, on dirait, les bouchées doubles pour aller défendre les mêmes intérêts que lui défendait. Au moment que j'ai comme pris sa cause, puis ça m'a donné le gaz nécessaire pour continuer, puis dire que, tu sais, il m'aura inspiré à continuer, puis j'espère qu'il est fier aujourd'hui de ce qui se passe, puis qu'il va être fier longtemps.
Moi, je suis sûr qu'il est bien fier, mais si je comprends bien, tu vas continuer l'écriture de son livre?
Ah, j'aimerais bien. C'est sûr que j'ai pas le savoir que lui avait, malheureusement. Là, il a pas eu le temps de coucher tout ça sur papier. Il a pas eu le temps non plus de coucher tout ça, tu sais, dans les enregistrements. Mm-hmm. J'ai tenté de récupérer ce que je peux récupérer, puis tenter de poursuivre ce projet. C'est certain, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais j'espère pouvoir retrouver tout le savoir, mais ça sera jamais pareil là, comme si c'était lui qui l'avait écrit. Mais je vais dire d'une façon ou d'une autre, il va sûrement m'aider dans ce projet-là.
Hey, Jennifer, toi, tu veux qu'on se réapproprie nos cultures, qu'on se sorte de la victimisation, hein, comme tu disais dans ton entrevue avec Kim. J'aimerais ça qu'on fasse un exercice de projection dans le futur. Mettons, t'es première ministre dans 25 ans. Comment tu...
On met ça à 10.
Oh ben, on pourrait mettre ça à 10 ou 15. Mettons, on va s'entendre à 20. Mettons que dans 20 ans, t'es première ministre du Québec ou du Canada. Comment tu verrais, dans un monde idéal, les relations entre les peuples autochtones et les États coloniaux?
C'est sûr que rapidement, là, le mot autonomie là, vient en tête de liste. Là. Moi, je fais partie de ceux là, qui croient beaucoup à l'autonomie gouvernementale. Mm-hmm. Je me dis comme souverainiste autochtone. Fait que c'est sûr que d'une part, il y aurait un grand exercice là, de développement là, de capacité d'affaires au sein des communautés. Puis pourquoi pas, l'État, tant québécois ou canadien, pourrait donner un coup de main à ce niveau-là, c'est une des ententes d'autonomie gouvernementale, des accords plus clairs. Mais tu sais, ça serait des premières affaires que je ferais, puis je crois que ça pourrait régler grandement des problèmes que les nations se réapproprient là, finalement leur autonomie, leur gouvernance, leur structure, qu'elles soient reconnues aussi tant par l'État québécois que l'État canadien, puis qu'on puisse avoir des relations d'égal à égal. Là. Le fameux mot là, nation à nation, là, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on se reconnaisse puis qu'on se traite comme étant deux gouvernements égaux.
Ça voudrait dire un peu de partage de pouvoir.
C'est sûr, moi c'est le même que je le vois. Puis pourquoi pas éventuellement, je sais pas, si on se dit que je suis première ministre du Canada, pourquoi à travers les provinces, il n'y aurait pas aussi une assemblée particulière où les Premières Nations pourraient siéger, décider quand c'est le temps de se mettre avec l'assemblée différente ou d'en faire une seule grande assemblée, mais de réserver des sièges, je pense que pour les Premières Nations, ça pourrait être très pertinent.
Parce qu'il faudrait qu'on ait plus de place dans le système politique des États coloniaux.
C'est clair, puis je crois que toutes les nations autochtones devraient là, se constituer, donc d'avoir une constitution à proprement dite, d'avoir des documents justement qui viennent sceller les fondements de la nation pour être capable après ça de bâtir d'égal à égal, puis d'avoir des droits, d'avoir des pouvoirs aussi très très définis. Je pense que c'est la base là, de tout gouvernement.
L'identité autochtone a déjà été usurpée dans l'histoire des premiers ministres. Je me souviens de nommer Trudeau dans un canot avec une grande veste à franges. Il avait son image autochtone, personne n'y a cru, mais il a essayé fort.
C'est clair, mais je pense que ça, à la base, là, c'est d'avoir des vrais autochtones, j'aime pas ça le dire, mais des vrais autochtones qui sont là, puis qui prennent le pouvoir, puis qui, justement, démocratisent peut-être là, ces tribunes-là, plutôt que de voir des gens qui tentent de se réapproprier là, certaines parcelles, là, ou qui tentent de voler une certaine identité même, là, tu sais. Moi, je pense que c'est en occupant la sphère publique qu'on évite de se faire prendre cette place-là par des gens qui n'ont pas rapport.
Quand vous parlez d'autonomie, Jennifer, est-ce que vous parlez d'autonomie aussi de territoire? Je parle comme blanc, là, mais...
Ben, c'est sûr que une autonomie vient avec un territoire défini. T'sais. Une autonomie et un gouvernement sans territoire, là, ça va pas grand place. Mais il y a une façon de convenir d'un territoire qui est partagé, de convenir de modalités, de façons de faire, de protocoles de consultation, par exemple, de négociation. Je pense que tout se négocie, tout s'organise. Là, la preuve, là, le monde étant ce qu'il est, ben, on deal très bien avec des gouvernances qui sont différentes et étrangères, des séparations territoriales, des frontières. Je pense que c'est pas une difficulté là, de convenir de certains cadres qui font que ça serait viable là, au sein du Canada, par exemple. Mais je pense que tout se fait. Là, il suffit de négocier et d'avoir une certaine reconnaissance aussi, là, puis un partenariat avec qui tu négocies, finalement.
Si on se projette encore dans le futur, mais on pourrait s'imaginer nos nations, ta nation Wendat, notre nation Wabanaki... Je pourrais dire un peu ma nation Wendat, je suis aussi un peu Wendat, là, mais tout ça pour dire comment dans 20 ans, dans 25 ans, tu t'imagines tes deux nations, toi?
Ben, c'est sûr que tu sais, je pense que chacune d'entre elles devrait être là, largement constituée, là, devrait avoir une autonomie certaine, devrait être capable d'avoir un certain développement, d'avoir des capacités développées également, d'avoir des gens qui s'investissent dans la nation, là, tu sais. Puis qu'elle soit justement, qu'elle cesse de vivre là, au crochet d'un ou de l'autre, là, mais tu sais, qu'elle soit purement autonome. Là, je pense que c'est ça aussi la solution dans quelques années pour les communautés autochtones. Moi, c'est sûr que dans un contexte où ces communautés-là seraient autonomes, puis on imagine hautement bien gérées, mm-hmm. Je pense que c'est la façon de faire là, pour que les relations s'améliorent entre les deux. Tu sais, on a toujours été des voisins. Là. On s'est toujours côtoyés. Il y a toujours eu des liens intrinsèques entre les communautés du Québec. Donc, je pense que de bâtir ces relations-là, puis d'avoir des accords, des partenariats, de la collaboration entre nous, je pense que c'est ça l'avenir à court, moyen, long terme. Mais ce qu'il faut faire avant tout, c'est bien sûr, c'est se stabiliser, avoir de la gouvernance plus stable dans chacune des communautés, plus définie, d'avoir aussi, une fois qu'on est un peu plus solide au niveau de la base, c'est facile après là, de tisser certaines relations, certains partenariats.
Puis d'un point de vue culturel, comment tu verrais ça pour les Abénaki, admettons?
C'est sûr que la culture, là, on le dit souvent, là, elle est appelée à changer. Là, mm-hmm. J'aime pas utiliser le terme disparaître parce que là, plusieurs sont pessimistes et disent que dans quelques années, on parlera plus nos langues, on connaîtra plus rien. T'sais, je pense que à la base, cet argument-là était vrai, mais aujourd'hui, on ne parlerait plus du tout nos langues, on n'aurait plus aucun lien culturel, ce qui n'est pas vrai. Fait que les communautés autochtones et les Premières Nations, sont des nations très résilientes. Je suis convaincue que la culture va être appelée à se transformer, peut-être même se renforcer, on ne sait jamais. Là, je me dis qu'avec la gouvernance et de l'autonomie, peut-être qu'il va y avoir justement de l'argent investi dans la culture, dans les traditions, dans les langues. Peut-être que justement, il va y avoir une réappropriation de toute cette culture-là et des langues, entre autres. Parce que moi, j'entrevois, comme je vous dis, pour moi, c'est un gros chapeau dans lequel là, il y a bien des solutions à plein de problèmes, mais il faut que les gouvernements en fassent une priorité. T'sais.
Oui, comme toi, tu as eu la chance de pouvoir aller faire ton éducation primaire dans une école de la communauté, puis pouvoir aller à Kiona, comme tu le racontais avec Kim dans l'entrevue. J'imagine que des expériences comme ça ont été quand même assez fondamentales dans ta volonté de te réapproprier ta culture, non seulement l'enseignement de tes parents, mais l'enseignement de ces écoles-là, de communauté, a dû faire une différence.
C'est clair. Puis c'est des endroits aussi où c'était tellement démocratisé. Tu sais, je veux dire, à l'école à Wendake, ça parle Wendat. Puis on parlait aussi à l'époque, le Wendat, on commençait à s'approprier cette langue-là. Donc à l'école, on parlait, on apprenait. On apprenait nos chants et danses, on apprenait notre culture. Parce que c'est sûr que nos cours d'art plastique, nous, c'est des cours d'artisanat qu'on faisait avec des amis de la communauté. Mais c'est sûr que tout ça a fait en sorte que pour moi, c'était tout à fait normal. Parce que une fois arrivé, tu n'es pas dans le réseau québécois, tu fais comme moi, un petit peu. C'est peut-être pas la même éducation que tout le monde a eue. Puis j'ai eu cette chance-là de pouvoir, très jeune, être sensibilisée à l'importance de protéger cette culture, cette tradition, puis cette langue-là. Et avec le temps, c'est sûr que j'ai appris aussi j'ai appris la langue Abénaki. Fait que c'est sûr que le plus possible, tu sais, moi, j'essaie de parler ces langues-là, j'essaie d'utiliser là, certains mots, même si je suis pas fluide. de simplement utiliser certains mots et de se réapproprier ces espaces-là, c'est déjà beaucoup. Puis je pense que cette sensibilité-là vient justement du fait que j'ai eu une éducation autochtone.
Oui, puis on l'a vu aussi par rapport au leadership que ça peut créer. Avec le Collège Manitou, il y a une kyrielle de leaders qui sont passés par le Collège Manitou. Toi, tu as pu aller au Collège Kiona. À l'Institut Kiona, penses-tu qu'il va y avoir une kyrielle de leaders comme toi qui vont sortir de cette école-là?
Bien, il y en a déjà, je pense, même. Là, nous, déjà, à l'interne, on se faisait des plans là, pour le futur, là, de comment on pourrait là, décoloniser le système, là, tant par l'éducation que la politique, là, que par l'occupation d'espace, tant aussi artistique. Je pense que ces leaders-là, on les connaît déjà aujourd'hui, puis sont déjà en train de percer, là, d'occuper la place publique. Fait que tant mieux s'il y en a, puis oui, je suis convaincue qu'il va y en avoir de plus en plus.
Bon, bien, Jennifer Obomsawin, c'était vraiment un grand plaisir.
Oui, mais j'espère qu'elle va se présenter. Pas dans 20 ans, mais bientôt. Dans 20 ans, je vais être mort. Moi, je veux voter pour elle, absolument, moi.
Bon, ben, c'est quoi le nom de ton parti politique, Jennifer?
Le Parti des premiers peuples.
Bon. Super. Ben, on souhaite longue vie au Parti des premiers peuples et bon succès dans ton travail auprès du grand chef Huron Wendat. Oléonie, merci beaucoup. Tu sais, Oléonie, merci d'être ici parmi nous.
Merci.
Bonne journée. Oléonie, merci.
C'était C'était Le Corbeau de Adsé. Adsé, c'est un nom d'artiste de la Wendat Anne-Marie Gros-Louis. Ça signifie « ma bonne amie ».
Son nom au complet, c'est quelque chose. Hein? Anne-Marie Gros-Louis Hull.
Oui.
Tu sais, tu te présentes à la cour de Louis XIV, là. Ça sera bon. On va parler des nouvelles de la semaine un peu,
oui.
Alexis.
Allons-y, allons-y.
Voir tes commentaires. Après deux années mouvementées pour la communauté arctique, qui a navigué sur plusieurs fronts, allant d'une pandémie mondiale à une administration américaine précédente, réfractaire à la reconnaissance des changements climatiques, en passant par la montée des tensions entre la Russie et l'Occident, le Conseil de l'Arctique a retrouvé une forme d'unité cette semaine. Les huit ministres des Affaires étrangères ont pu signer une déclaration commune en vantant l'importance du dialogue et de la coopération dans le Grand Nord, en tenant compte, évidemment, de ses habitants. C'est important, ça.
C'est important parce que l'Arctique est vu en ce moment par les États, les grandes puissances de ce monde, comme la Russie et les États-Unis, comme quelque chose où on peut aller chercher des territoires pour les ressources, ou aussi, suite à la fonte des glaces, il va y avoir des nouvelles routes de passage. Donc, il y a une course à l'Arctique en ce moment. On l'a vu dans les dernières années, même les États-Unis traversaient dans les eaux canadiennes sans demander la permission au Canada pour réaffirmer leur puissance. On le voit avec les Russes qui vont planter un petit drapeau dans le fond de l'eau pour montrer que c'est chez eux. Donc, je pense qu'il est important qu'on prenne en compte les habitants qui sont des Autochtones de ces régions-là pour faire en sorte qu'on puisse avoir un développement peut-être de l'Arctique qui va leur correspondre.
Il faudrait qu'ils aient droit au chapitre, à avoir droit de parole, ça n'a pas d'allure.
Je pense que ça serait nécessaire, oui. Puis à ce point de vue-là, il faudrait peut-être inclure une chambre autochtone du Conseil de l'Arctique ou quelque chose comme ça dans cette organisation-là. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il va y avoir des changements climatiques très importants. Et on le voit encore, là, c'est qui va payer pour ça? C'est des peuples autochtones.
Ont déjà commencé à
payer.
Ils ont déjà commencé à payer
par rapport au fait qu'ils ont de moins en moins de nourriture, ils ont des moins grosses banquises. Et c'est comme ça partout dans le monde. En général, c'est les Autochtones qui payent le prix en premier de cette injustice climatique.
OK. La Première Nation de Shamattawa se prépare pour deux enterrements cette semaine, alors que la communauté a déclaré l'état d'urgence en raison de ce que le chef a qualifié de crise du suicide. Il y a encore un gros problème de suicide chez les Autochtones, non?
Oui, ben, tu sais, on parle beaucoup ici de qu'est-ce qui va bien, de réussite de gens des Premières Nations, mais le colonialisme, le racisme, le fait de qu'on ait à rester dans des conditions de vie indignes, qu'on ait des services avec l'indignité quand on va vers les services sociaux, les services de santé, ça a des conséquences dans la vie des gens encore aujourd'hui. Puis le fait que ces gens-là vivent encore dans la pauvreté dans bien, bien, bien des communautés quand on sort des tonnes et des tonnes et des tonnes de mètres cubes de bois, des tonnes de minerais de leur territoire, puis qu'il n'y ait pas un accès juste au moins à une petite redevance, ça fait en sorte que la pauvreté va faire en sorte d'exacerber tous les autres problèmes en plus. Je dis pas que la richesse ou le bonheur matériel va tout régler. On le voit, là, il y a des crises du suicide dans des communautés qui sont quand même assez bien nanties, puis tout ça. Mais il reste que ça atténue quand même certains problèmes quand on a accès à un certain confort matériel. Puis après ça, bon, ben toute cette idée-là de réappropriation culturelle, de se réapproprier, d'avoir le goût de vivre, on le voit que ça a des impacts dans la vie des gens, ça. Quand on a cette fierté-là de vouloir continuer, de vouloir enseigner à nos enfants, de vouloir être fiers de notre culture, de notre passé, de notre histoire, ben ça donne le goût de plus de vie.
C'est que des fois, depuis tant d'années, tant de décennies écrasées, des fois, ils n'ont pas le goût de se relever. Et maintenant, cette fierté revient tranquillement. Ça va peut-être ce qui va aider le plus au suicide.
Je l'espère, je le souhaite sincèrement, parce que la mort rôde encore dans beaucoup de communautés.
Ah oui, hein. Ça n'a pas changé. Et là, j'ai hâte de t'entendre sur le prochain. Mm-hmm. Jennifer Bumsawin disait tout à l'heure la nécessité des autonomies, de y compris de territoire. OK. Assieds-toi. Alors, l'ancienne ministre, hein, Jody Wilson-Raybould, a été la seule à voter non à la reconnaissance de la nation et du français, seule langue officielle du Québec. Rien de bon pour les relations avec les nations autochtones, ça.
L'ancienne
ministre... Parce qu'elle est identifiée comme autochtone.
Oui, mais du fait que la dernière mouture de la loi 101, comment la loi la charte de la protection française n'inclut pas les langues autochtones. Donc, si cette ancienne ministre-là a voté contre ça, c'est que on a eu beaucoup de doléances chez les Premières Nations qu'on disait, nous, là, les Premières Nations, là, OK, c'est beau que vous vouliez protéger le français, c'est une cause juste et bonne. C'est correct, on comprend ça. Mais nous, les langues autochtones, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit à cette protection-là? Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit à ce statut officiel-là comme qu'on donne aux Français quand on vit ici depuis des millénaires, quand c'est notre territoire? Pourquoi cette protection-là pourrait pas s'appliquer aux langues autochtones aussi?
Ça serait possible dans la Constitution, mais il faudrait amender la Constitution unanimement.
Ben, il faudrait amender la Constitution. Il faudrait aussi, au départ, que le gouvernement québécois ait la volonté d'inclure les langues autochtones puis la protection des langues autochtones dans le corpus législatif du Québec.
Ça, c'est pas fait, ça.
Non, c'est loin d'être fait.
OK, on change de nouvelle d'abord. Les villageois de Taslina, en Alaska, ont lancé une collecte de fonds pour tenter de réapproprier leurs terres ancestrales, que l'Église catholique, évidemment, propriétaire des terrains depuis 1950, ça fait pas si longtemps que ça, a mis en vente au prix de quasiment 2 millions. Là. Ils pourraient pas leur donner, tabarnouche?
Ben, surtout à qui ils l'ont pris, ce territoire-là.
Ben, c'est ça que je me dis, tu sais.
Mais on voit justement l'espèce de dichotomie où on nous dit, bon, ben, il faudrait reprendre nos territoires, mais en même temps, il faudrait les racheter. C'est la même chose ici au Canada avec le système des tribunaux, des revendications particulières. Quand une communauté comme la mienne au Danakh s'est faite prendre des territoires, on est passé de 65 km² à peu près 7 aujourd'hui.
C'est tant que ça.
Ouais. Ça serait intéressant qu'on puisse ravoir du territoire, mais en ce moment, on a juste droit à des compensations financières pour ces pertes territoriales-là.
On va juste terminer en soulignant malheureusement le décès de l'anthropologue, linguiste José Mayotte, qui est décédé à 78 ans. Une grande rechercheuse et chercheuse et,
oui,
et
c'est
défendresse
elle,
de la langue.
C'est elle qui a traduit, entre autres, « Je suis une maudite sauvagesse » en français. Donc, elle a fait un travail remarquable pour permettre de connaître les Innus en particulier.
On la salue.
On la salue.
Dans la prochaine demi-heure, Isabelle Picard et son livre Niche, le Nord et le Sud.
Exactement.
Vous écoutez Coué Bonjour avec Alexis Wawanalwat et Robert Blondin.
And
C'était Chinan Nitoasim de l'artiste Inu Shawit.
Un nouveau roman jeunesse qui vient de sortir qui s'appelle Niche, le Nord et le Sud. C'est publié aux éditions Les Malins. Et l'autrice est avec nous, Isabelle Picard. Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien. Hey, j'ai sur ma feuille Ethnologue Wendat. Êtes-vous Wendat Ethnologue ou Ethnologue Wendat?
Je suis Wendat d'abord, Ethnologue ensuite.
Ouais, OK. C'est votre premier... première écriture de fiction, Isabelle?
En fait, c'est mon premier roman. J'avais déjà fait paraître deux nouvelles dans deux recueils de nouvelles. Wapke de Michel Jean, qui vient tout de suite de sortir, là, qui vient il y a quelques jours à peine. Et au mois de février, un autre recueil qui s'appelle De racines et de mots et qui parle des langues. Et moi, j'y parle de la langue Wendat.
On va redire tout de suite quelque chose. Là. C'est pas parce que c'est un roman jeunesse que c'est plus facile à écrire qu'un roman pour adultes, hein?
Oh non, ça c'est clair.
Vraiment pas.
Il faut se mettre dans la tête d'adolescents. Heureusement, j'ai deux garçons qui sont des adolescents, donc ils m'ont aidé. Ils ont été des consultants. Je devrais les payer, je pense.
Ça, c'est le fun quand ces adolescents peuvent servir à quelque chose. Hein?
Ah, ben oui, ils servent à plus que ça quand même. Ils ont été vraiment une grande, grande aide.
Formidable. Mais écrire pour les jeunes en évitant le ton là, éducateur, etc., c'est pas si évident que ça. Il faut comme redevenir jeune, hein, c'est ce que vous impliquiez.
Oui, absolument, absolument. Ben, j'avais comme deux buts. Tu sais, je voulais que les jeunes qui lisent ça, d'abord, il faut savoir que bien sûr, ça s'adresse aux Autochtones. J'espère qu'ils vont se reconnaître à l'intérieur de ça puis se l'approprier. Mais ça s'adresse aussi aux Québécois puis aux francophones en général. Ça, pour moi, ça, c'était important.
C'est très évident quand on le lit, hein.
Ben tant mieux. Et donc, je voulais que les jeunes se retrouvent, qu'il y ait du fun, qu'on parle des premiers amours, qu'on parle de la famille, de l'amitié, des relations avec son frère, du hockey, de ce qu'on fait. Tu sais, quand on est jeune, on se découvre, puis on essaie toutes sortes d'affaires, puis je voulais qu'ils trippent. Mais à travers ça, c'est sûr que je voulais passer un certain contenu d'une certaine façon, pas d'une façon théorique ou académique là, ou très moralisatrice, mais je me disais, si je suis capable de piquer la curiosité de certains jeunes qui se posent des questions, par exemple, sur les pensionnats ou qui se posent des questions sur la mise en réserve, ben, ils pourront aller faire leurs propres recherches. Fait que c'est un peu mon but, finalement.
Passer de l'action, de l'essai à la fiction, comme ça, c'est pas toujours facile, ça, c'est on vient de parler, mais vous, est-ce qu'il y a une difficulté en particulier que vous avez dû surmonter pour y arriver?
C'est vrai que c'est pas simple. Moi, je faisais beaucoup dans la chronique écrite avant. J'ai travaillé à la presse pendant quelques années comme chroniqueuse, puis à Radio-Canada aussi. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière? Je dirais que non, pas nécessairement, outre le fait, bien sûr, que ça s'adresse à un public jeune. Ça, c'est sûr, on vient déjà d'en parler. Donc, j'ai dû adapter. Ma difficulté a été plus parce que je voulais tellement bien faire les choses, je voulais bien représenter, je voulais que les Autochtones, les Inuits en particulier, parce que ça se passe à Matimekosh, je voulais qu'ils soient fiers de retrouver leur communauté comme eux la sentent. Donc ça, c'est pas évident. Moi, j'ai fait un voyage de 2 semaines là, il y a une 20aine d'années. Mais pour justement pallier à ces petites failles-là, ben je me suis collée avec des gens de l'endroit qui m'ont aidée. Ils étaient là pour répondre à mes questions. On a eu plein de discussions. On est allé luncher ensemble. Donc c'est vraiment une façon que j'ai eue pour valider un peu ce que je ressentais. Puis j'espère que j'ai été capable de rendre cet univers-là dans le livre.
Oui, bien comme l'histoire du lac Orange, je n'avais jamais entendu parler avant de lire des extraits de ton livre, Isabelle. C'est, ouais. C'est des gens de Matimekosh qui t'ont raconté ça?
Bien, en fait, ça a fait les médias, ça, il y a quelques années, puis je m'en souvenais, il y a peut-être 3 ans. Puis je me souvenais de ça, donc j'avais cette idée-là en tête, ça m'avait beaucoup marqué. J'ai fait mes recherches, puis j'ai retrouvé, évidemment, il y a un fond de réalité, il y a un peu de fiction à travers tout ça, j'ai arrangé bien sûr, mais c'est une histoire qui s'est véritablement passée. Puis on peut faire la recherche en faisant Google, là, tu sais, tout simplement. Donc plusieurs choses, c'était plusieurs événements qui se passent à l'intérieur du livre. Ce sont des réalités qu'on a retrouvées, qu'on m'a racontées, oui, c'est vrai, avec le temps. Il y a 20 ans, moi, j'ai fait un voyage là. J'avais organisé un échange entre l'école primaire de Wendake et l'école primaire de Matimekosh et Kawashikamak. Donc, c'était un échange de 12-13 ans. C'était vraiment, vraiment intéressant. Les jeunes m'ont raconté plein d'affaires. Puis, tu sais, j'ai mon côté ethnologue, anthropologue qui a embarqué, donc je n'arrêtais pas de poser des questions sur le territoire. Puis, je me suis dit, à un moment donné, je vais raconter ça d'une certaine façon. Et puis, quand est venue l'idée du livre jeunesse, je me suis dit, OK, voilà, c'est ça que j'ai envie de raconter.
Disons que Niche est devenu un film, parce que ça peut le devenir, on ne sait jamais, hein? Et que là, vous deviez nous faire un pitch, là, nous expliquer, nous inviter à aller voir ce film-là, en fait, à lire le roman. Résumez-le un peu, qu'on ait le goût de le lire.
Oui, ben merci de me donner cette chance-là. En fait, Niche, c'est l'histoire de deux jumeaux. Donc, deux jumeaux Inuits qui ont 13 ans, Héloïse et Léon. Et ça raconte un peu leur parcours à l'intérieur d'une année dans la communauté, donc leur lien avec leurs amis, avec la famille. Il va y avoir un mystère. Hein, il y a quelque chose déjà qui va marquer l'univers de ces deux jeunes-là. Un mystère qui se passe dans le territoire. Donc, j'avais envie aussi de faire vivre le territoire à travers l'histoire. Et donc, ce mystère-là va être un peu le style de lien là, à travers tous les chapitres. Et à travers ça, ben, Léon et Héloïse vont se découvrir. Léon est un sportif qui va jouer au hockey. Donc, c'est de voir comment aussi les choses sont différentes dans le Nord. Parce que là, on est à Schefferville, on est vraiment très, très haut. Donc, au niveau du hockey, par exemple, on n'est pas capable de faire des 2A, 2B, 2C, bon, etc. Il n'y a pas assez de monde. Donc, souvent, on rassemble tous les jeunes dans une même équipe. L'aréna, on n'a pas toujours nos abonnés. L'équipement n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, c'est de voir ces différences-là. Et Héloïse, elle, va découvrir une passion pour la justice sociale, pour être très, très proche de ses amis aussi, premier amour, bon, etc. Et donc, c'est de se découvrir comme jeune, finalement, à travers ce que vivent ces deux jumeaux-là, là, dans cet univers qui est vraiment, vraiment différent. Donc, je voulais qu'on voit cette différence-là, mais je voulais qu'on voit aussi des choses communes avec tous les jeunes, finalement. Comme je le disais, là, les premiers amours, bon, etc.
Vous parlez de différence là, entre le Nord et le Sud, mais il est question aussi de ressemblance entre les deux. La ressemblance, c'est la caractéristique même de l'adolescence, finalement. Au Nord comme au Sud, on est adolescent un peu de la même façon.
Ben oui, absolument. On est humain avant tout, puis on a tendance à l'oublier. Je trouve qu'on met souvent l'autre avec un grand A à part, puis nous avec un grand N d'un certain côté. J'avais envie qu'il se passe à travers ce livre-là, une certaine rencontre. Pour moi, ça, c'était vraiment, vraiment important. Puis j'établis aussi, bien sûr, sur les ressemblances de ce que c'est qu'être un adolescent à cet âge-là. C'est ça, comme je disais tout à l'heure, tu sais, la découverte qu'on est en train de faire de soi. On se pose des questions. Comment l'adversité au niveau de la famille, il arrive pas un conflit, mais il arrive un problème dans cette famille-là qui va changer l'univers familial des deux jumeaux. Et ça peut arriver à n'importe qui. La maladie, par exemple, un déménagement, bon, etc., ça peut arriver à n'importe quel adolescent. Donc, comment est-ce qu'on réagit à travers tout ça? Je pense que les jeunes vont pouvoir se reconnaître, même s'ils sont pas autochtones. Dans le fond, c'était ça le but, c'est d'ouvrir une porte sur un univers.
Mais il y a un lien très habile que vous faites, Isabelle, entre le Nord et le Sud, c'est que vos deux personnages sont deux jumeaux élevés pas au même endroit.
Ben, c'est deux jumeaux qui sont qui viennent du même endroit, qui viennent de Massimécoche. Les parents, par contre, sont pas du même endroit. Donc, le père, il est Innu de Massimécoche, puis la mère, elle est Wendat. Donc, étant infirmière, elle s'est faite assigner un poste à Matinécoche. Et là, à un moment donné, il va y avoir un lien vers le sud, vers Wendake. Donc, il va y avoir une péripétie qui va faire en sorte que Léon, entre autres, va s'en venir vers le sud. Puis là, on voit les différences qui sont marquées, mais on rit un peu de ça aussi, avec ça. Je pense qu'il y a des choses intéressantes puis cocasses, finalement, dans le livre pour montrer ces différences-là de façon... rigolote, disons.
Rigolote, en parlant de rigolote, votre différence au niveau culinaire, là, quand vous passez des pâtes Alfredo à l'étonnement du maïs chez les Wendat, c'est absolument délicieux, c'est le cas de dire, là, comme différence.
Oui, merci beaucoup. Tout le côté la crème glacée aussi, ça, je trouvais ça intéressant de voir que là-bas, il n'y a pas de crèmerie. Donc, comment est-ce qu'ils font quand ils veulent se faire une crème glacée un peu fancy? Puis là, il y a tout un essai. Donc, j'avais envie un essai des filles, d'Éloïse et de ses amis. J'avais envie de démontrer qu'on n'a pas tout le confort non plus au nord. On n'a pas tout le luxe qu'on prend pour acquis dans le sud. C'était important pour moi d'ouvrir la porte sur ça aussi.
Et c'est important également de leur donner la parole en alternance. Hein? C'est très bien structuré, à mon avis.
Merci beaucoup. J'avais envie de titiller un peu la curiosité autant des filles que des gars. Puis je me suis dit, en faisant ça, peut-être que ça va être possible, ça va être un moyen, je l'espère en tout cas.
Parlez-moi un peu du niveau de langage. On est avec des adolescents, on peut s'attendre à tout, là.
Oui, c'est sûr, évidemment. J'avais écrit ce livre-là au départ pour les 12-15, puis finalement, je me suis rendu compte que c'est peut-être un peu plus jeune. Donc, on parle peut-être plus de 10-14. Puis, ce que j'ai voulu rendre très, très important pour moi, ce qu'il était, c'était d'avoir des phrases en Inuaïmoun. Donc, là-bas, on parle l'Inuaïmoun, on parle le Naskapi, on parle un peu l'anglais, on parle un peu le français. Bien, pour moi, c'était important. Ça ne pouvait pas juste se parler en français toujours. Évidemment, je ne pouvais pas écrire un roman en langue Inu. Il n'y a personne au Sud qui aurait pu le lire. Mais au moins d'avoir plusieurs phrases en langue qui sont traduites, là, en langue Innu, ben déjà, ça donne une teinte, puis on vient mieux comprendre cet univers-là, je pense, à travers le récit.
Isabelle, il y a un très, très beau clin d'œil là-dedans, quand vous les faites parler par Internet, là, par je sais plus quoi, là.
Instagram. Des directs messages sur Instagram.
Ça, c'est absolument délicieux à voir, c'est tellement la réalité, hein.
Ben, je vois mes garçons qui sont tout le temps là-dessus. À un moment donné, je les ai fait parler par Messenger, puis mes garçons m'ont dit « Ah, pas trop, parce que là, on s'en vient plus, on parle par Instagram. » Donc, j'essaie de suivre un peu la mode. Je veux que les jeunes se collent puis se reconnaissent là-dedans. Puis, c'est ces moyens de communication-là technologiques qui, tranquillement, s'en viennent vers le nord, hein, parce que, je veux dire, il n'y avait pas toutes ces facilités-là de Wi-Fi, puis de réseau cellulaire, puis etc., qu'on a au sud. Bien, ça va les suivre dans le deuxième livre, parce que c'est une série, évidemment, si vous le
dites. Oui, c'est important de dire que c'est une série qui s'en vient. Hein. Et,
oui,
juste avant qu'on termine là-dessus, on vient avec vous, on va aller bientôt avec un peu de musique, mais on revient pour vous parler après. Mais je voudrais d'abord dire qu'il y a un élément essentiel dans le livre, c'est la notion de famille, mais la famille au sens large, là, c'est la parentalité, mais c'est aussi le clan, l'identité, le club de hockey. C'est des familles et c'est important dans le livre.
Ah oui, absolument. Mais dans une communauté autochtone, cet aspect-là de famille n'est pas seulement la famille nucléaire, c'est la famille élargie, c'est la communauté. Comme vous le disiez, ça peut être les équipes, ça peut être l'école. C'est très, très, très important. Alexis en sait quelque chose. On est collé là, sur les gens avec qui on vit. Et donc, pour moi, là, il fallait que ça transparaisse. C'est essentiel. C'est une des choses que j'ai ressenties quand je me suis pointée là il y a déjà une vingtaine d'années.
Alors, on a le temps d'une gorgée de café, puis on vient.
C'est bon.
Is Q. I'm coming from the res, the 052. Mulla boy, Kiska Biggie up crew. Mega my pride for these big my lens. Mega my power in these make my hands. Mega my swagger in this make my man. Cruise around the res as I'm riding real low. Cousins all see cause I'm riding real slow. Windows all down, let the wind blow.
Q, where we gonna go?
Don't ask questions, come on, let's go.
Damn, Q, this shit's fire.
Damn right, cuz my res right shines.
Res right shines, yes, my res right shines. Yeah, my res right shines. I take my time in between the lines.
I take my time and I look real fine. Res white shines, yes, my res white shines. Yeah, my res white shines. Yeah, my res white shines. Res white shines, yes, my res white shines.
When I cruise around the res, I'm always being laughed at. You spent 30 G's, mine's barely half that. I used to have nice paint, now it's mostly rusty. Still delivering to every single crusty. From K down to Lusty, my ride is recognized. No side view, a rubberneck to check out thighs. If your wife's on the block, you wanna try to hide her. Cause you brought me in to fucking Res Rider. A backseat athlete that wants more medals. Every lady loves it when you floor the pedals. But at the car show, I played a sideline. I could only wish that my Res Ride shines.
Res Ride shines, yes, my Res Ride shines. Yeah, my Res Ride shines. I take my time in between the lines. I take my time and I look real fine. Res Ride shines, yes, my Res Ride shines. Yeah, my Res Ride shines. Yeah, my Res Ride shines. Res Ride shines, yes, my Res Ride shines.
Yo, it's a 721-86 Chevy. Paint all looking like the clear on heavy. That mirrored from perfection, that life in direction. There ain't no intersection, double guessing, fuck stressing. I put that on my daughter, I'm a ride for the lesson. Pride that I'm getting, that tribe that I'm repping. With his 283, small block, big cock, yeah, you know me. Yo, Mr. Trunk full of cigarette smoke. If it ain't pride, it's hope. I swear to God, I'm gonna die in this boat. Both hands on the steering wheel reciting this note. Yeah, for my people in the body shop doing that.
Res Ride shines, yes, my Res Ride shines. Yeah, my Res Ride shines. I take my time in between the lines. I take my time and I look real fine. Res Ride shines, yes, my Res Ride shines. Yeah, my Res Ride shines. Yeah, my Res Ride shines. Res Ride shines, yes, my Res Ride shines.
With his 283, small block, big cock, yeah, you know me. With his 283, small block, big cock, yeah, you know me. With his 283, small block, big cock.
C'était Res Ride Shine de l'artiste Q052, aussi connu sous le nom de Quentin Kondo, qu'on avait déjà reçu à l'émission.
Le nouveau roman jeunesse s'appelle Niche, le Nord et le Sud. Le Nord et le Sud, un peu comme Jean de La Fontaine avait écrit Le Rat des villes et Le Rat des chances. Ça m'a fait penser à ça. Un sacré bon roman pour les jeunes d'Isabelle Picard. Avec nous, Alexis?
Oui. Donc, on a reçu Isabelle Picard, l'auteur. Maintenant, on va recevoir un petit peu Isabelle Picard, qui occupe le poste de première spécialiste aux affaires autochtones dans l'équipe de l'inclusion des communautés à Radio-Canada. C'est un gros titre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as comme dans ton mandat pour permettre cette inclusion-là des Autochtones à Radio-Canada?
Ouais, oui, en effet, c'est un gros mandat. Ça fait un an que je suis là maintenant. Mm-hmm. En fait, ce que je veux faire, ce que je dois faire, c'est favoriser l'inclusion des Autochtones à Radio-Canada. Oui. Puis quand on pense de Radio-Canada, on pense souvent, bien sûr, les contenus, la programmation, mais il y a tellement de choses aussi derrière. C'est-à-dire, entre autres, embaucher plus d'Autochtones. Mm-hmm. On a déjà fait un grand, grand pas à l'intérieur d'une année. Puis c'est aussi tout changer la culture organisationnelle, ou en tout cas, essayer de conseiller le mieux possible la corporation pour que la culture organisationnelle soit la plus inclusive possible. Et moi, j'ajoute à ça le lien avec les communautés et les milieux autochtones. Mm-hmm. Parce que je suis un peu une des personnes qui vont venir voir quand ils ont soit... peut-être pas une plainte, mais ils ont un commentaire ou ils ont une suggestion, ou ils ont des idées, ou etc. Donc, souvent, je suis aussi cette personne-là. Donc, je travaille au niveau des quatre pôles depuis, comme je le disais, là, plus d'une année maintenant.
Donc, si on prend, par exemple, Espace Autochtone, on sait qu'ils font quand même du bon travail. On a travaillé là, tous les deux ensemble. Mm-hmm. Ça permet à beaucoup d'Autochtones d'avoir des expériences dans les médias. Moi, qu'est-ce que j'avais remarqué, qu'est-ce qui m'avait subjugué un peu, c'est qu'il y avait une majorité de non-Autochtones comme employés permanents d'Espace mm-hmm. Autochtone. Est-ce que c'est toujours le cas?
Ben non. Ben en fait, non. Une majorité, il faudrait que je compte, mais déjà, on a deux Autochtones qui sont entrés à temps plein depuis okay. un an. Donc, Gabrielle Paul, à titre de journaliste, et il y a Maria-Louise Nanipou aussi, qui est en train de faire un stage de longue durée aussi.
Okay.
Et il y a d'autres postes qui vont s'ouvrir dans les prochains mois. On a Michèle Audette aussi, qui est une nouvelle chroniqueuse. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Donc, on essaie vraiment de diversifier puis d'avoir le plus d'Autochtones parce que, bien sûr, c'est une réflexion qu'on avait à l'interne, mais on entendait aussi beaucoup ça de l'externe. C'est normal. Le problème, c'est souvent d'avoir des gens qui ont la... Je dirais l'expérience, pas l'expérience, mais la formation universitaire en journalisme, par exemple, ça peut être difficile. Il n'y en a pas beaucoup des Autochtones qui sortent de là. Alors, ce qu'on a fait pour pallier à ça, c'est qu'avec l'UQAM, on a créé une bourse pour les Autochtones. En fait, c'est deux bourses de 10 000 $ pour les Autochtones qui voudraient travailler en journalisme et surtout étudier en journalisme. Donc, pour favoriser finalement un afflux plus important d'Autochtones au niveau de l'éducation.
Donc, on devrait s'attendre à avoir des journalistes, non seulement en espace autochtone dans quelques années, mais aussi dans le service des nouvelles en général.
Ben oui, absolument. L'idée, c'est pas de mettre dans un espèce d'enclos les Autochtones à espace autochtone.
Ben, le danger, c'est que ça devienne une réserve des ondes.
Oui. Hein? Ben oui, c'est ça. Puis on en est bien conscient. Puis je pense que l'idée, c'est si, je sais pas, un journaliste est intéressé d'aller travailler à Regina, à Winnipeg, en Acadie ou... peu importe, au téléjournal, ben go, là, je veux dire, il n'y a pas de limite. Mais c'est sûr qu'espace autochtone est quand même un point d'entrée qui peut être intéressant quand on sort de l'université. Voilà.
Est-ce que vos fonctions, Isabelle, vous permettent d'aller voir un peu les préparations d'émissions, les contenus d'émissions pour peut-être leur suggérer ou des intervenants ou des sujets? C'est possible?
Oui, d'une certaine façon. Évidemment, depuis un an, on est en COVID, hein, on le sait tous. Alors, on travaille tous à la maison. Je n'ai même pas mis les pieds à Radio-Canada depuis mon embauche. Donc, sur place comme telle, non. Je me promène pas dans les studios, bien sûr. Il y a des mesures. Mais sinon, oui. Souvent, même, on fait appel à moi. On me dit, ben écoute, nous autres, on aimerait ça inclure un Autochtone ou on a tel sujet. Et, qui tu penses que... Donc, ça fait partie... de mes fonctions, de mettre les gens en contact. J'ai tout un réseau de contacts, bien sûr, là, Alexis. On développe ça avec le temps, on en a tous un. Et puis, j'essaie de mettre les gens en contact le plus possible. Puis, je fais des suggestions. Je fais des suggestions à différents niveaux. Là, il y a des choses que je ne peux pas vous révéler, j'aimerais tellement ça vous révéler, mais regardez ce qui va se passer là, dans le cadre de la fête nationale des Autochtones. Il y a quelque chose d'intéressant. Donc, souvent, c'est suite à des suggestions internes qu'on va essayer de bouger là, le plus possible pour amener une inclusion plus grande des Autochtones dans les contenus ici.
Ben, si vous nous l'annoncez, on ne leur dira pas.
Non, c'est ça. Mais regardez, ça s'en vient bientôt.
Non, mais on l'a vu aussi avec les grands entretiens. Vous avez laissé la place à Kim Obomsawin faire des grands entretiens avec des jeunes Autochtones ou moins jeunes Autochtones qui méritent d'être connus. On s'attend à des nouveaux projets comme ça. Est-ce que un Autochtone qui aurait des difficultés, on l'a vu dernièrement dans Le Devoir, il y avait un rapport qui disait que les minorités visibles avaient peur de s'exprimer au sein de Radio-Canada. Est-ce qu'un Autochtone qui serait employé au sein de Radio-Canada ou chroniqueur ou quelque chose comme ça pourrait venir te voir pour dire « Hey, moi j'ai essayé de sensibiliser mon équipe à... » au racisme systémique, par exemple, et ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est aussi ton rôle?
Oui, c'est aussi mon rôle. Je fais beaucoup... Ben, en fait, ce n'est pas dans ma description de tâche, mais il y a quand même la médiation qui se fait autant à l'interne pour un sujet comme celui que tu amènes, que ça peut être à l'externe aussi. Ça peut être des organisations autochtones qui aimeraient passer un certain message puis qui m'approchent puis qui disaient « Penses-tu que tu pourrais me mettre en lien avec? Bon, » etc. Donc, oui, je fais aussi cet aspect médiation culturelle-là. Puis j'essaie de supporter le plus possible. On a créé un groupe autochtone, par exemple, donc de tous les employés autochtones de Radio-Canada. On s'assemble une fois par mois, on échange, on voit c'est où les faiblesses, etc. Puis pour pallier, par exemple, au racisme systémique, ben moi, j'offre des formations. Donc, j'ai mis en place deux formations. Il y en a une, c'est une formation pour les journalistes. Ça s'appelle « Reportage en milieu autochtone ». Et c'est une formation d'une journée. Puis là, ben, on fait tout le tour de ce que ça peut vouloir dire faire des reportages en milieu autochtone, la méfiance, hein, évidemment, des Autochtones, de certains Autochtones envers les médias. On explique le pourquoi. Puis surtout, on donne des outils. On met le doigt sur des bobos, des fois, qui sont pas faciles, hein, sur des faux pas que des journalistes ont pu commettre dans le passé. Puis on donne les outils. Donc, moi, je crois beaucoup, beaucoup en l'éducation, finalement, pour enrayer cette méconnaissance et ce racisme culturel-là et cette discrimination-là.
Vous avez sûrement raison. Est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'actuellement, il y a vraiment un engouement pour tous les sujets autochtones, de parler avec les autochtones, de faire parler les autochtones. Ça peut être une tendance qui peut s'éteindre un jour aussi.
Il y a vraiment un momentum. J'espère que ça ne s'éteindra pas avant qu'on soit rendu là où on veut être. On veut des réels changements, puis à l'intérieur de Radio-Canada aussi, ils veulent de réels changements. Donc, si les deux, on va dans le même sens, c'est sûr que c'est un gros bateau, puis c'est pas facile, des fois, de changer toute une culture organisationnelle, de changer des façons de faire. Ça fait 84 ans que ça existe, mm-hmm. Radio-Canada, donc quand même. Mais je pense que il y a un momentum, il y a quelque chose là. Catherine Tait, la présidente, a mis dans ses priorités que Radio-Canada et CBC doivent incarner le Canada d'aujourd'hui. Donc il faut qu'on fasse des actions qui vont faire en sorte que les Autochtones, puisque c'est de ce dont il est question ici, se retrouvent.
Puis puissent se sentir chez eux aussi à Radio-Canada.
Ben oui, c'est ça. Mais c'est pas simple, tu sais, je veux dire, ça se fait pas du jour au lendemain, mais il y a beaucoup de petits pas qui se font.
Bon, ben Isabelle Picard, Tia Leone, merci beaucoup. Néawen, si je ne me trompe pas en Wendat.
Tiawan,
pardon, je l'ai
dit. Je vais rester en français. Bon, merci, Isabelle.
Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
L'émission se termine ainsi avec nos collaborateurs habituels, Alexis Wawanonowat, Robert Blondin, ainsi avec Claire Guérin à la recherche, Louis Garon à la coordination et à la régie, Maurice Bolduc. À la semaine prochaine!